les fiancés, chapitre 24. Lucia s'était réveillée depuis peu de temps, et elle en avait péniblement employé une partie à se dégager tout à fait du sommeil, à séparer les visions confuses qu'il avait enfantées des souvenirs et des images de cette réalité trop ressemblante, en effet, à une sinistre vision de malade. La vieille s'était aussitôt approchée d'elle, et avec cette voix forcément bénigne dont elle venait de faire l'apprentissage, elle lui avait dit « Ah, vous avez dormi, vous auriez pu dormir au lit tout à votre aise. Ce n'est pas au moins que je ne vous l'ai dit bien des fois hier au soir. » Et ne recevant point de réponse, elle avait continué, toujours sur un ton d'instance aigre-doux, « Mangez donc, enfin, un peu de bon sens. Oh, comme vous voilà laide, vous avez besoin de manger. Et si ensuite, à son retour, il s'en prend à moi ?»« Non, non, je veux m'en aller. Je veux aller retrouver ma mère. Le maître me l'a promis. Il a dit demain matin. Où est-il, le maître ?»« Il est sorti. » Et il m'a dit qu'il reviendra bientôt, et qu'il fera tout ce que vous voudrez. Il a dit cela, il l'a dit. Eh bien, je veux aller trouver ma mère, tout de suite, tout de suite. » Dans ce moment, un bruit de pas se fait entendre dans la chambre voisine, puis un petit coup à la porte. La vieille accourt et dit « Qui est là ?»« Ouvre !» répond tout bas une voix d'elle bien connue. La vieille tire le verrou. L'innommée, poussant légèrement la porte, ouvre un étroit passage, ordonne à la vieille de sortir, et fait aussitôt entrer Don Abbondio avec la brave femme. Il retire ensuite les battants, s'arrête en dehors, et envoie la vieille dans une partie éloignée du château, comme il avait déjà renvoyé l'autre femme mise de garde hors la chambre. Tout ce mouvement, cette autre scène qui se présentait, cette apparition de personnes nouvelles causèrent un redoublement dans le trouble de Lucia, pour qui, si son état présent était intolérable, tout changement n'en était pas moins un nouveau sujet d'alarmes et de terreurs. Elle regarda, vit un prêtre, une femme, et se sentit un peu rassurée. Elle regarda plus attentivement. « Est-ce lui ou n'est-ce pas lui ?» Elle reconnut Don Abbondio et resta les yeux fixes, comme stupéfiée. La femme s'approche, se penche vers elle, et, la considérant d'un air attendri, lui prenant les deux mains comme pour la caresser et la relever en même temps, elle lui dit « Oh, pauvre enfant, venez, venez avec nous. Qui êtes-vous » demanda Lucia. Mais sans attendre la réponse, elle se tourna encore vers Don Abbondio, qui était resté deux pas en arrière, ayant lui-même la figure empreinte de compassion. Elle le regarda de nouveau fixement et s'écria « Vous ? Est-ce vous, monsieur le curé ? Où sommes-nous ? Oh, malheureuse, je perds la raison !»« Non, non, répondit Don Abbondio, c'est bien moi, rassurez-vous. Voyez, nous sommes ici pour vous emmener. Je suis bien votre curé, venu ici tout exprès à cheval. » Lucia, comme si elle eût tout à coup recouvré toutes ses forces, se dressa précipitamment. Puis elle fixa encore ses yeux sur ses deux visages et dit « C'est donc la Sainte Vierge qui vous a envoyé ?»« Je le crois, » dit la brave femme. « Mais pouvons-nous partir ? Pouvons-nous partir tout de bon ?» reprit Lucia, baissant la voix et avec une expression de crainte dans le regard. « Et tous ces gens ?» poursuivit-elle dans un mouvement d'horreur qui la vint pénétrer et se marqua sur ses lèvres tremblantes et contractées. « Et ce monsieur, cet homme, en effet, il me l'avait promis. Il est également ici, en personne, venu exprès avec nous, » dit Don Abbondio. « Il est là, dehors, qui attend. Allons vite, ne le faisons pas attendre, ce personnage à qui sont dus tant d'égards. » Alors, celui dont on parlait poussa la porte et se montra. Lucia, qui, peu de moments avant, le désirait, et même, n'ayant d'autre espérance au monde, ne désirait que lui, Lucia, maintenant, après avoir vu, après avoir entendu des figures, des voix amies, ne put réprimer un subit saisissement. Elle tressaillit, retint son souffle, et se serra contre la brave femme dans le sein de laquelle elle cacha son visage. Pour lui, à la vue de cette figure, dont la veille déjà il n'avait pu bien soutenir l'aspect, de cette figure devenue plus pâle, plus abattue, plus défaite par la prolongation de la souffrance et le défaut de nourriture, il s'était arrêté sans presque dépasser la porte. Voyant ensuite ce mouvement d'effort de la pauvre fille, il baissa les yeux, resta un moment encore, muet et immobile. Puis, répondant à ce qu'elle n'avait point dit, « C'est vrai, s'écria-t-il, pardonnez-moi. » « Il vient vous délivrer, il n'est plus le même, il est devenu bon. L'entendez-vous qui vous demande pardon ?» disait la brave femme à l'oreille de Lucia. « Peut-on rien dire de plus ? Allons, levez cette tête, ne faites pas l'enfant, que nous puissions vite partir, » lui disait Don Abbondio. Lucia leva la tête, regarda l'innommé, et, voyant ce front baissé, ce regard confus et fixé sur la terre, saisit cette fois d'un sentiment où se confondaient la consolation renaissante, la gratitude et la compassion, elle dit « Oh, mon digne monsieur, que Dieu vous récompense de votre miséricorde !» et qu'il vous rende au centuple le bien que ces paroles me font. Puis, aussitôt, il se retourna, marcha vers la porte et sortit le premier. Lucia, toute ranimée, accompagnée de la femme, qui lui donnait le bras, le suivit. Don Abbondio fermait la marche. Ils descendirent l'escalier, arrivèrent à la porte qui donnait sur la cour. L'innommé l'ouvrit toute grande, alla vers la litière, en ouvrit la portière et donna la main à Lucia, puis à la brave femme, pour les aider à y entrer, ce qu'il fit avec une certaine politesse mêlée presque de timidité, deux choses en lui toutes nouvelles. Après quoi il détacha la mule de Don Abbondio et, la lui présentant, il l'aida de même à monter. « Oh, que de bonté !» dit celui-ci, et il monta beaucoup plus lestement que la première fois. Le convoi se mit en marche lorsque l'innommé fut lui-même à cheval. Son front s'était relevé, son regard avait repris son expression accoutumée de commandement. Les bravi qu'il rencontrait voyaient bien sur sa figure les marques d'une pensée qui agissait fortement en lui, d'une préoccupation extraordinaire. Mais en tout cela, il ne comprenait et ne pouvait comprendre rien de plus. Au château, l'on ignorait le grand changement opéré chez cet homme, et certes, nul de ces gens n'eût été conduit, par ses propres conjectures, à soupçonner rien de pareil. La brave femme avait aussitôt tiré les rideaux de la litière. Prenant ensuite affectueusement les mains de Lucia, elle s'était mise à la réconforter par des paroles de compassion, de félicitations et de tendresse. Et voyant qu'en outre de la fatigue, où tant de souffrances l'avaient laissée, la confusion et l'obscurité des événements l'empêchaient de bien sentir la joie de sa délivrance, elle lui dit ce qu'elle put imaginer de plus propre à débrouiller ses pensées, à leur faire, pour ainsi dire, reprendre leur cours. Elle lui nomma le village où elles allaient. « Oui, » dit Lucia, qui connaissait ce village pour n'être pas éloignée du sien. « Ah, Vierge Sainte, je vous remercie. Ma mère, ma mère !»« Nous l'enverrons tout de suite chercher, » dit la brave femme, qui ne savait pas que la chose était déjà faite. « Oui, oui, Dieu vous le rendra. Et vous, qui êtes-vous? Comment êtes-vous venu ?»« C'est notre curé qui m'a envoyé, » dit la brave femme, « parce que ce monsieur a eu le cœur touché de la grâce, que le bon Dieu en soit béni, et il est venu dans notre village pour parler à Monseigneur le cardinal archevêque. » car nous l'avons là, le saint homme, faisant sa visite. Il s'est repenti de ses gros péchés et veut changer de vie. Et il l'a dit au cardinal qu'il avait fait enlever une pauvre innocente, vous désignant ainsi vous-même. Et cela, d'accord avec un autre mécréant, que le curé n'a pu me faire connaître. Lucia leva les yeux au ciel. « Vous le connaissez peut-être, vous, » continua la brave femme. Bref, je dis donc que Monseigneur a pensé que, s'agissant d'une jeune fille, il fallait une femme pour l'accompagner, et il a dit au curé d'en chercher une. et le curé, de sa bonté, est venu chez moi. Oh, que le Seigneur vous récompense de votre charité! Eh, ma pauvre enfant, ne suis-je pas déjà bien payée? Et monsieur le curé m'a dit de vous rassurer, de faire en sorte que vous soyez tout de suite soulagée, et de vous montrer combien le Seigneur vous a sauvée miraculeusement. Ah oui, miraculeusement, par l'intercession de la Sainte Vierge. Qu'ainsi donc vous soyez sans crainte, et que vous devez pardonner à celui qui vous a fait du mal, vous réjouir de ce que Dieu a usé pour lui de miséricorde, et même prier pour lui. Parce que, en outre du mérite que vous y acquérez, vous en éprouverez du contentement dans le cœur. Lucia répondit par un regard qui exprimait son assentiment avec autant de clarté que l'auraient pu faire ses paroles et avec une douceur que ses paroles n'auraient pu rendre. « Brave fille, reprit la femme, et comme votre curé se trouvait aussi dans notre endroit, car il en est tant venu de tous les environs qu'il y aurait de quoi faire 4 synodes, Monseigneur a jugé à propos de l'envoyer aussi avec moi. Mais il ne nous a pas été d'un grand secours. J'avais bien entendu dire que c'était un homme de peu de ressources, mais dans cette circonstance, j'ai pu voir effectivement qu'il est empêtré comme un coq dans des étoupes. « Et celui-ci ? Demanda Lucia. « Celui qui est devenu bon, qui est-il ? » « Comment, vous ne le savez pas ? » dit la brave femme, et elle le nomma. « Oh, miséricorde ! » s'écria Lucia. Que de fois, en effet, n'avait-elle pas entendu répéter ce nom avec horreur dans des histoires où il figurait toujours comme celui de l'ogre dans d'autres récits. Et maintenant, à l'idée qu'elle avait été sous son terrible pouvoir, comme elle était en ce moment sous sa garde bienveillante, à l'idée d'un si horrible malheur et d'une délivrance si imprévue, en considérant quel était celui dont elle avait vu le visage farouche d'abord, puis empreint d'émotion, puis d'humiliation et de repentir, elle resta comme pétrifiée, ne disant que ces mots de temps en temps. « Oh, miséricorde !»« C'est vraiment une grande marque de miséricorde, » disait la brave femme. « Ce sera, pour une foule de personnes, un grand soulagement. Quand on songe à tous ceux dont il troublait la vie. Et maintenant, à ce que m'a dit notre curé, il est devenu un saint. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir ses œuvres. » Dire que cette brave femme ne fut pas fort curieuse de connaître un peu plus clairement la grande aventure dans laquelle elle se trouvait appelée à jouer un rôle ne serait pas l'exacte vérité. Mais ce qu'il faut dire à sa louange, c'est que, pénétrée d'une pitié respectueuse pour Lucia, sentant ce qu'avait, en quelque sorte, de grave et de digne, la mission qu'elle avait à remplir, elle n'eut pas même l'idée de lui faire une question indiscrète ou seulement oiseuse. Toutes ces paroles, durant le trajet, ne furent que d'intérêt et de consolation pour la jeune fille. « Dieu sait depuis combien de temps vous n'avez mangé. Je ne m'en souviens plus, depuis longtemps. Pauvre enfant, vous avez besoin de vous redonner des forces. » « Oui, » répondit Lucia d'une voix faible. « Chez moi, grâce au ciel, nous trouverons tout de suite quelque chose à vous servir. Prenez courage, nous n'en sommes plus bien loin. » Puis Lucia se laissait languissamment tomber au fond de la litière, où elle demeurait comme assoupie. Et alors la brave femme la laissait en repos. Quant à Don Abbondio, le retour ne fut assurément pas pour lui aussi fertile en angoisse que la venue. Mais ce ne fut pourtant pas encore un voyage d'agrément. Sa grande peur une fois calmée, il s'était d'abord senti tout allégé. Mais bientôt, cent autres déplaisirs surgirent dans son cœur. De même que, là où un grand arbre a été déraciné, le terrain demeure net pour quelque temps, mais ensuite se couvre tout entier de mauvaises plantes. Il était devenu plus sensible à tout ce qui, auparavant, s'était absorbé dans l'excès de sa frayeur, et il ne lui manquait, ni dans le présent, ni dans ses pensées sur l'avenir, de quoi tourmenter l'âme. Il éprouvait, beaucoup plus qu'il ne l'avait fait en venant, l'incommodité de cette manière de voyager dont il n'avait pas grande habitude. Et ce fut surtout au début, dans la descente, depuis le château jusqu'au bas de la vallée. Le conducteur de la litière, pressé par les signes de l'innommé, faisait aller ses mules d'un bon pas. Les deux autres montures marchaient immédiatement après et d'un pas semblable. D'où il suit que, dans les endroits où la pente était plus rapide, le pauvre Don Abbondio, comme s'il avait eu un levier derrière lui, tombait en avant et, pour se soutenir, était obligé de faire force de la main contre l'arçon de la selle. Et il n'osait cependant demander que l'on allât moins vite, désireux d'ailleurs qu'il était de se voir le plus tôt possible hors de ce triste pays. De plus, chaque fois qu'une hauteur était à remonter par une rampe en saillie, la mule, selon la coutume des animaux de son espèce, s'obstinait, comme pour le contrarier, à tenir toujours le côté du dehors, à mettre les pieds tout à fait sur le bord du chemin. Et Don Abbondio voyait presque perpendiculairement au-dessous de lui un saut périlleux à faire, ou, selon son idée, un véritable précipice. « Et toi aussi, disait-il intérieurement à sa bête, tu as ce détestable goût d'aller chercher les périls, qu'il y a tant de place pour s'en tenir à l'écart. » Et il tirait la bride de l'autre côté, mais inutilement. De sorte qu'il finissait, comme à son ordinaire, tourmenté de dépit et de peur, par se laisser mener au gré d'une autre volonté que la sienne. Les bravi ne lui causaient plus tant d'effroi, maintenant qu'il était plus sûr des sentiments de leur maître. Mais, lui disaient ses réflexions, si la nouvelle de cette grande conversion se répand dans cet endroit-ci, pendant que nous y sommes encore, qui sait comment ces gens l'apprendront? Qui sait ce qu'il en peut advenir? S'ils allaient s'imaginer que je suis venu ici faire le missionnaire, Dieu garde, ils me martyriseraient! L'air sévère de l'innommé ne lui donnait pas d'inquiétude. Pour tenir en devoir de telles figures, se disait-il encore, il ne faut rien moins que cette figure-là, je le comprends fort bien. Mais pourquoi faut-il que ce soit moi qui me trouve parmi de tels personnages? Cependant, on arriva au bas de la descente, et l'on finit aussi par sortir de la vallée. Le front de l'innommé allait se déridant. Don Abbondio lui-même montra un visage plus naturel. Il dégagea un peu sa tête d'entre ses épaules, laissa plus de jeu à ses bras et à ses jambes, se tint un peu mieux sur ses reins, ce qui le faisait paraître tout autre, et sa respiration devint plus large et plus facile. Mais à tête plus reposée, il se mit alors à considérer d'autres dangers lointains. Que dira cet animal de Don Rodrigo? Rester ainsi avec un pied de nez, ayant tout à la fois le dommage et les railleries, jugez si la chose va lui paraître amère. C'est maintenant qu'il va tout de bon faire le diable. Pourvu qu'il ne s'en prenne pas à moi pour m'être trouvé dans tout ceci. S'il a bien eu le cœur, dans le principe, d'envoyer ces deux démons sur mon chemin, qui sait aujourd'hui tout ce qu'il pourra faire? Il n'ira pas s'attaquer à son illustrissime seigneurie. Le morceau est trop dur pour lui. Et là, il lui faudra ronger son frein. Mais il n'en aura pas moins la rage dans le corps, et il voudra la passer sur quelqu'un. Comment finissent toujours ces sortes d'affaires? Les coups tombent en bas, les chiffons sont jetés en l'air. Son illustrissime seigneurie, comme de raison, songera à mettre Lucia en lieu de sûreté. Cet autre pauvre diable, si malencontreux pour moi, ne peut être atteint, et a déjà eu sa part. Et voilà que c'est moi qui deviens le chiffon. Il serait cruel, après tant de dérangements, tant d'agitations, et sans mérite qui m'en revienne, que ce fût moi qui eusse à payer pour tous. Que fera son illustrissime seigneurie pour me défendre, après m'avoir mis dans le pétrin? Peut-elle me garantir que ce damné ne me jouera pas un tour pire que le premier? Et puis, monseigneur a tant d'affaires en tête, il met la main à tant de choses, comment songer à tout? Et voilà comme souvent on laisse les choses plus embrouillées qu'elles n'étaient d'abord. Ceux qui font le bien le font en gros. Quand ils ont goûté cette satisfaction, cela leur suffit, et ils ne veulent pas s'ennuyer à suivre toutes les conséquences. Mais ceux qui prennent plaisir à faire le mal y mettent plus de soin. Ils suivent leur affaire jusqu'au bout, ne s'y donnent point de repos, parce qu'ils ont ce chancre qui les ronge. Dois-je aller dire que je suis venu ici par ordre exprès de son illustrissime seigneurie et non de mon propre gré? Il semblerait que je veux me mettre du côté de l'iniquité. Oh, bon Dieu, moi, du côté de l'iniquité, pour les agréments qu'elle me procure. Enfin, ce qu'il y aura de mieux sera de raconter à Perpétua la chose comme elle est, et puis de laisser faire sa langue. Pourvu que l'envie ne vienne pas à mon seigneur de donner de la publicité à cette histoire, de faire quelque scène inutile et de me camper dedans. En attendant, dès que nous allons être arrivés, s'il est sorti de l'église, je vais bien vite lui tirer ma révérence. S'il ne l'est pas, je charge quelqu'un de m'excuser auprès de lui et je prends tout droit le chemin du logis. Lucia est bien appuyée, on n'a plus besoin de moi. Et après tant de tracas, je puis bien aussi prétendre à m'aller un peu reposer. Et puis, si monseigneur allait avoir la curiosité de savoir toute l'histoire, et qu'il me fallut rendre compte de l'affaire du mariage, il ne manquerait plus que cela. Et s'il vient faire sa visite dans ma paroisse? Oh, alors comme alors, je ne veux pas me troubler l'esprit à l'avance, j'ai déjà bien assez de soucis. Pour le moment, je vais m'enfermer chez moi. Pendant que monseigneur se trouve dans ces contrées, Don Rodrigo n'aura pas le front de faire des folies. Et après... Ah, je vois que mes dernières années se passeront mal. Le convoi arriva avant que les cérémonies de l'église fussent finies. Il passa au milieu de la même foule qu'il avait déjà traversée et qui ne fut pas moins émue que la première fois, et puis il se divisa. Les deux cavaliers tournèrent sur une petite place au fond de laquelle était la maison du curé. La litière continua son chemin vers celle de la brave femme. Don Abondio fit ce qu'il avait projeté. À peine descendu de sa mule, il se morfondit en salutations respectueuses auprès de l'innommé et le pria de vouloir bien présenter ses excuses à monseigneur, attendu qu'il était obligé de retourner immédiatement à sa paroisse pour des affaires urgentes. Il alla chercher ce qu'il appelait son cheval, c'est-à-dire son bâton, qu'il avait laissé dans un coin du petit salon, et il se mit en marche. L'innommé attendit que le cardinal revînt de l'église. La brave femme, après avoir fait asseoir Lucia à la meilleure place de sa cuisine, se mit aussitôt en besogne pour préparer de quoi lui rendre tout d'abord un peu de force, refusant avec une certaine brusquerie de cordialité les remerciements et les excuses que celle-ci lui répétait de temps en temps. Mettant bien vite du bois de fagot sous une marmite où nageait un bon chapon, elle pressa le feu. Puis, dès que le bouillon fut chaud, elle en remplit une écuelle qu'elle venait de garnir de tranches de pain, et put enfin la présenter à Lucia. Heureuse de voir la pauvre fille se ranimer à chaque cuillerée qu'elle avalait, elle se félicitait à haute voix de ce que la chose arrivait dans un jour où, selon son expression, le chat n'était pas sur le foyer. « C'est un jour, ajoutait-elle, où chacun s'industrie pour faire son petit régal, excepté ces pauvres malheureux qui ont peine à se procurer du pain de vesse et de la polenta de blé noir. Encore espèrent-ils tous avoir quelque chose d'un prélat si charitable. Pour nous, grâce à Dieu, nous ne sommes pas dans ce cas. Avec le métier de mon mari et quelques biens que nous avons au soleil, nous nous tirons d'affaire. Ainsi donc mangez ceci sans regret, en attendant. Tout à l'heure, le chapon sera cuit à son point, et vous pourrez vous restaurer un peu mieux. » Et elle retourna à ses préparatifs du dîner et du couvert à mettre. Lucia, cependant, dont les forces étaient un peu rétablies et l'âme de plus en plus en voie de se calmer, allait rajustant, par une habitude, un instinct qui était en elle de décence et de propreté, ce qui était en désordre sur sa personne. Elle relevait et arrêtait ses tresses lâchées et embrouillées, elle arrangeait son mouchoir sur ses épaules et sur son sein. Ses mains, en passant ainsi autour de son cou, rencontrèrent le chapelet qu'elle y avait mis la nuit précédente. Elle y jeta un regard, un trouble subit la saisit. Le souvenir de son vœu, ce souvenir perdu, étouffé jusque-là par tant de sensations du moment, se réveilla imprévu dans son esprit et s'y montra dans toute sa clarté. Alors, toutes les puissances de son âme, qui venaient à peine de se relever, furent de nouveau et d'un seul coup abattus. Et si cette âme n'avait pas été préparée comme elle l'était par une vie d'innocence, de résignation et de confiance, la consternation qu'elle éprouva aurait été du désespoir. Après un de ces mouvements où les pensées bouillonnent avec trop de force pour qu'elles se puissent traduire en paroles, les premiers mots qui se formèrent dans son esprit furent « Oh malheureuse, qu'ai-je fait ?» Mais ces mots ne furent pas plutôt pensés qu'elle en ressentit une sorte d'épouvante. Toutes les circonstances de son vœu lui revinrent à la mémoire. Son angoisse intolérable, toute espérance de secours perdue, la ferveur de sa prière, le sentiment plein et entier avec lequel sa promesse avait été faite. Et lorsque la grâce avait été obtenue, se repentir de cette promesse lui parut une ingratitude sacrilège, une perfidie envers Dieu et la Sainte Vierge. Il lui sembla qu'une telle infidélité lui attirerait de nouvelles et plus terribles infortunes au milieu desquelles la prière même ne lui offrirait plus d'espérance, et elle se hâta de désavouer ce repentir d'un moment. Elle ôta dévotement le chapelet d'autour de son cou, et, le tenant dans sa main tremblante, elle le renouvela, elle confirma son vœu, en même temps qu'avec un serrement de cœur, elle élevait au ciel ses supplications pour qu'il lui donnât la force de remplir cet engagement, qu'il lui épargnât les pensées et les occasions qui pourraient, sinon ébranler son cœur, du moins l'exposer à des agitations trop vives. L'éloignement de Renzo, sans aucune probabilité de retour, cet éloignement qui jusqu'alors avait été si douloureux pour elle, lui parut maintenant une disposition de la Providence, qui avait fait marcher ensemble les deux événements dans une seule et même fin. Et elle s'étudiait à trouver dans l'un ce qui pouvait lui donner lieu de ne pas se plaindre de l'autre. À la suite de cette pensée, elle allait se figurant encore que cette même Providence, pour achever l'œuvre, saurait trouver le moyen d'amener Renzo à se résigner aussi, à ne plus penser. Mais à peine une idée pareille eut-elle été rencontrée qu'elle bouleversa l'esprit qui était allé la chercher. La pauvre Lucia, sentant son cœur prêt encore à se repentir, en revint à la prière, à la confirmation de son vœu, au combat d'où elle se releva. Qu'on nous passe cette expression, comme le vainqueur se relève, non sans fatigues et sans blessures, de dessus son ennemi abattu, je ne dis pas frappé à mort. Tout à coup, un bruit de pas précipités et de joyeuses voix se fait entendre. C'était la jeune famille qui revenait de l'église. Deux petites filles et un petit garçon entrent en sautant. Ils s'arrêtent un instant à regarder Lucia d'un œil curieux, puis ils courent vers la maman et se groupent autour d'elle. D'un côté, l'on demande le nom de cette étrangère inconnue, et les pourquoi, les comment viennent à la file. De l'autre, on veut raconter les merveilles qu'on a vues. Paix, vous autres, pas tant de bruit. C'est la réponse que la brave femme fait à tout et à tous. Puis arrive le maître de la maison, qui entre d'un pas plus mesuré, mais avec un empressement cordial peint sur la figure. C'était, si nous ne l'avons déjà dit, le tailleur du village et des environs. Un homme qui savait lire, qui avait lu en effet plus d'une fois « Il legendario de Santi »,« Il guerrin meschino » et « Il reali di Francia » et qui passait dans la contrée pour un homme de talent et de science. Éloge toutefois qu'il repoussait avec modestie, disant seulement qu'il avait manqué sa vocation et que s'il s'était donné à l'étude plutôt que tant d'autres. Avec cela, la meilleure patte d'homme que l'on pût voir. S'étant trouvé présent, lorsque le curé était venu demander à sa femme d'entreprendre ce charitable voyage, non seulement il y avait donné son approbation, mais il l'y aurait encouragé si c'eût été nécessaire. Et maintenant que les cérémonies, les pompes de l'église, le concours de peuple et surtout le sermon du cardinal avaient, comme on dit, exalté tous ses bons sentiments, il revenait au logis plein d'impatience de savoir le résultat de l'expédition et de trouver la pauvre innocente sauvée. Regardez, lui dit comme il entrait, la brave femme en montrant Lucia. Et celle-ci, rougissant, se leva et commençait à balbutier quelques excuses. Mais il s'approcha d'elle et l'interrompit en lui faisant fête et s'écriant « Soyez la bienvenue, oui, la bienvenue. Vous êtes la bénédiction du ciel dans cette maison. Que je suis heureux de vous voir ici. J'étais bien sûr que vous arriveriez à bon port, car je n'ai trouvé nulle part que le Seigneur ait commencé un miracle sans le bien finir. Mais je suis dans la joie de vous voir ici, pauvre jeune fille. C'est pourtant une grande chose que d'être l'objet d'un miracle. » Et que l'on ne croit pas qu'il fut le seul à qualifier ainsi cet événement parce qu'il avait lu le Legendario. Dans tout le pays et les environs, on n'en parla pas autrement tant que s'en conserva la mémoire, et il faut reconnaître qu'avec les ornements surtout qui ne manquèrent pas de s'y joindre, nul autre nom ne lui pouvait convenir. S'approchant ensuite lentement de sa femme qui ôtait la marmite de dessus le feu, il lui dit à voix basse « Tout s'est-il bien passé ? » « On ne peut mieux, je te conterai cela plus tard. »« Oui, oui, à loisir. » Puis, tout étant prêt sur la table, la maîtresse alla prendre Lucia, l'y amena, la fit asseoir, et, découpant une aile du chapon, elle la lui servit. Après quoi elle s'assit elle-même, ainsi que son mari, et tous deux exhortèrent leurs convives timides et abattus à prendre courage et à manger. Le tailleur commença, dès les premières bouchées, à discourir avec emphase au milieu des interruptions des enfants qui mangeaient autour de la table et qui, dans le fait, avaient vu trop de choses extraordinaires pour s'en tenir au rôle d'auditeur. Il décrivait la solennité des cérémonies, puis il sautait à la conversion miraculeuse. Mais ce qui lui avait fait le plus d'impression et sur quoi il revenait le plus souvent, c'était le sermon du cardinal. Voir un si grand prélat, disait-il, là, devant l'autel, comme un simple curé. Et cette chose d'or qu'il avait sur la tête, disait l'une des petites filles. Tais-toi. Voir, dis-je, un si grand prélat et un homme si savant, qui, à ce qu'on dit, a lu tous les livres qui existent, à quoi personne autre n'est jamais arrivé, pas même à Milan, le voir se prêter à dire les choses de manière que chacun puisse les comprendre. « Et moi aussi je l'ai compris, » dit l'autre petite bavarde. « Tais-toi, que veux-tu avoir compris, toi ?»« J'ai compris qu'il expliquait l'Évangile à la place de monsieur le curé. »« Tais-toi, je ne parle pas de ceux qui savent quelque chose. Dans ce cas-là, on est obligé de comprendre. Mais les plus durs de tête, les plus ignorants, pouvaient suivre le fil de son discours. » Qu'on leur demande maintenant s'ils pourraient répéter ces paroles. Eh bien, je ne dis pas non. Ils n'en repêcheraient peut-être pas une seule, mais le sentiment, ils l'ont là. Et sans jamais nommer ce Seigneur, comme l'on voyait qu'il voulait parler de lui. D'ailleurs, pour le voir, il n'y avait qu'à remarquer quand il avait les larmes aux yeux. Et alors, toute l'église de pleurer. « C'est vrai, dit le petit garçon, mais pourquoi pleuraient-ils tous comme ça, comme de petits enfants ? Tais-toi ! Et cependant, les cœurs durs ne manquent pas dans le pays. Et il a clairement fait voir que, bien qu'il y ait disette, il faut remercier le Seigneur et rester le cœur en paix. Faire ce que l'on peut, s'industrier, s'aider de son mieux, et puis rester le cœur en paix, parce que le malheur n'est pas de souffrir et d'être pauvre. Le malheur et de faire le mal. » Et de sa part, ce ne sont pas de pures paroles, car on sait que lui aussi vit en homme pauvre, et qu'il saute le pain de la bouche pour le donner à ceux qui ont faim, tandis qu'il pourrait, et mieux que personne, mener une vie à souhait. Ah, c'est alors qu'un homme fait plaisir à entendre. On ne dit pas de lui comme de tant d'autres, « Faites ce qu'ils disent, et ne faites pas ce qu'ils font. » Et puis, il a bien fait voir que ceux-là aussi, qui ne sont pas des messieurs, s'ils ont plus que le nécessaire, sont obligés d'en faire part à ceux qui souffrent. Ici, il s'interrompit de lui-même, comme surpris par une pensée. Il resta un moment immobile. Puis il fit un plat de chacun des mets qui se trouvaient sur la table, y joignit un pain, mit le plat dans une serviette, et, le tenant par les quatre coins, il dit à l'aînée de ses petites filles, « Prends ceci. Il lui mit dans l'autre main une bouteille de vin et ajouta « Va ici près, chez Marie la veuve, laisse-lui cela, et dis-lui que c'est pour se régaler un peu avec ses enfants. Mais avec bonne manière, que tu n'aies pas l'air de lui faire l'aumône. Et si tu rencontres quelqu'un, ne dis pas où tu vas. Prends garde de rien casser. » Lucia sentit ses yeux se mouiller de larmes, et l'attendrissement qu'elle éprouva fut comme un baume pour les blessures de son cœur. Déjà, par tout ce qu'elle venait d'entendre, elle avait obtenu un soulagement que des paroles plus directes de consolation n'auraient pu lui apporter. Son âme, entraînée par ses descriptions, par ses images de pompe religieuse, par ses émotions de piété et d'admiration, saisie du même enthousiasme qui inspirait le narrateur, s'éloignait des pensées douloureuses qui lui étaient propres, ou, si elle y revenait, c'était avec plus de force pour les soutenir. La pensée même de son grand sacrifice, sans avoir perdu de son amertume, amenait cette fois avec elle quelque chose de semblable à un contentement austère et solennel.